Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Grande Tchatch, le ravi Radio Grenouille sur les 3-8, une émission animée par Michel Guéraud et Rafi Amal, et avec nous aujourd'hui, Michel Peset, bonjour.
Bonjour.
Michel Peset est conseiller général de Marseille, une tradition dans cette émission que vous connaissez puisque vous êtes déjà venu, c'est le portrait de l'invité à la sauce ravie bien sûr, Michel.
Lors de votre dernier passage à la Grande Tchatch, nous vous avions comparé au célèbre lapin Duracell, celui qui, avec son petit tambour, ne s'arrête jamais et dure toujours plus longtemps. L'année 2013 confirme que vos batteries ne sont toujours pas déchargées. Elle a même commencé par une grande clameur. Je ne parle pas de celle de la capitale européenne de la culture qui a eu beaucoup de peine à s'élever au-dessus du vieux port. Je fais allusion au cri d'un admirateur aussi célèbre qu'inattendu. Il vous a qualifié de gars assidu, honnête et travailleur et vous a désigné comme le maire idéal à gauche pour Marseille. Pour ceux qui auraient loupé l'épisode, ce fan transi est le nouveau patron de la Provence, Bernard Tapie. Comme nanar, vous faites d'ailleurs un comeback tonitruant. À peine réclamez-vous la mise sous tutelle de la Fédération Socialiste des Bouches-du-Rhône, Carlem Désir s'exécute. Depuis, tout un chacun tremble ou s'impatiente dans l'attente de vos prochaines déclarations. Pour faire monter la pression et pour faire durer le suspense avant vos oracles tant espérés ou redoutés, rappelons à nos jeunes auditeurs, tous ceux qui ont moins de 70 ans, quelques étapes de votre parcours. Vous devenez avocat en 65, à 23 ans, vous êtes élu député suppléant à 25 ans, vous rejoignez le comité directeur du PS à 29 ans, vous entrez au conseil municipal de Marseille à 35 ans, Gaston Defer vous confie la présidence de la Fédération PS des Bouches-du-Rhône à 37 ans, vous présidez le conseil régional à 39 ans, à la mort de Defer, on vous accuse d'avoir trahi le vieux chef à 44 ans, vous êtes battu par Vigourou au municipal à 47 ans et Bernard Tapie vous qualifie de gars honnête à 71 ans. Bon, entre-temps, il s'est passé deux, trois choses. Vous avez créé l'Office régional de la culture, vous avez siégé à l'Assemblée nationale, vous avez écopé d'une condamnation pour recel de fonds dans l'affaire Urba, vous avez gagné des élections cantonales, vous avez tenté de conquérir la mairie d'Aix-en-Provence, vous êtes devenu monsieur culture au Conseil général, vous siégez au Conseil d'administration de Marseille-Provence 2013. Mais trêve de plaisanterie, la parole est maintenant à Maître Peset. Planquez-vous !
Michel Peset, un commentaire sur ce portrait à la sauce ravie ?
Non, très bien. C'est vrai que j'avais oublié le Duracell. Je trouve que c'était pas mal, d'ailleurs.
Un mot avec l'actualité nationale. On assiste depuis quelque temps à une prise littéralement de la rue par un clivage, les mariages pour tous, ceux qui sont contre, ceux qui sont pour. Qu'est-ce que vous pensez de ce clivage ? On pensait en être sorti avec la fin de l'ère, entre guillemets, Sarkozy. Ça recommence ?
Non, moi, ce que je pense, c'est que... On va très bien voir leurs dernières déclarations, est-ce qu'ils feront des listes municipales, enfin, est-ce qu'ils rentrent dans un jeu politique ou est-ce qu'ils y rentrent pas. On verra bien ce qu'il en sera. Moi, ce qui m'effraie toujours, c'est, si vous voulez, ce manque de culture, je dirais, de culture politique, de culture historique, sur des gens qui continuent à se battre. Quand j'entends un de mes confrères dire « sauvons le code civil », c'est une farce, je veux dire, le code civil, il a évolué au fur et à mesure du temps. Dans le mariage romain, il y avait la possibilité d'avoir deux pères. Enfin, je veux dire, la société, elle est pas figée, elle est pas arrêtée. Il y a des mouvements sociaux. La société, elle évolue, elle change, elle se transforme. C'est extravagant d'entendre encore ça aujourd'hui. Quoi. Je veux dire, je me retrouve parfois avec des débats comme j'avais eu à l'Assemblée nationale lorsque j'ai supprimé le délit de vagabondage. Et je voyais une collègue, professeur de droit, hurler en disant « mais le vagabond, c'est ceux qui commettent encore une fois tous les crimes et les délits ». Donc j'ai l'impression par moment de me trouver dans une période de folie. Quoi. Je veux dire, des gens qui ne savent rien. Ils ne savent rien de l'histoire.
Vous êtes étonné de cette crispation, on a l'impression que la France est quand même beaucoup plus réactionnaire que ce que l'on pouvait penser.
À la fois oui et non. Enfin, il faut quand même pas oublier que les mêmes qui manifestent aujourd'hui, c'est la même droite qui a refusé le divorce, c'est la même droite qui a refusé le Pax, c'est la même droite qui a refusé la dépénalisation de l'homosexualité. C'est la même. Enfin, je veux dire, elle est toujours là. Alors c'est vrai que c'est impressionnant de voir ce monde, mais on se dit, mais créneau, ils arrivent pas à évoluer dans leur tête. Qu'est-ce qui se passe ? Comment cette société peut se bloquer avec autant de monde ? Parce que c'est vrai qu'il y a du monde dans la rue. Et dire que Hollande ne s'incline pas là-dessus, mais Hollande a raison. Je pense que François Mitterrand avait commis une erreur lorsque Savary avait décidé ce qui était quand même l'idée d'un grand programme en 1981 sur effectivement l'unicité de l'enseignement. On a refusé parce que la Russie était opposée. Ben, je crois que le président de la République a raison, c'était dans son programme, il l'avait dit, il n'a rien caché, il a raison d'aller jusqu'au bout sur cette réforme.
Et sur la méthode, est-ce qu'il a eu raison d'anticiper, d'accélérer le mouvement au risque justement d'énerver un peu tout le monde et de donner l'impression de passer en force ?
Mais il a bien fait de passer en force. Enfin, on ne peut pas à la fois reprocher à... Enfin, vous entendez comme moi hein, les critiques qui sont faites souvent sur François Hollande en disant « Ah, il est un peu trop normal, il est un peu trop mou ». Eh bien là, je crois qu'il a raison. Enfin, d'abord, c'était continuer ces manifestations régulièrement, etc. C'était jouer avec la rue. Je crois qu'il a eu raison de passer en force et de faire qu'effectivement, demain, tout soit terminé.
Est-ce qu'il n'y a pas une instrumentalisation, malgré tout, de ce dossier ? Parce que c'est très clivant. Il y a la droite, il y a la gauche. La droite est tombée un petit peu dans le panneau dans lequel on a agité le chiffon rouge. Elle se caricature, comme vous le soulignez vous-même. Est-ce que... C'est pas un dossier en or, ça, pour fédérer un petit peu la gauche et caractériser et faire déraper le camp adverse.
Ça devrait se faire. Enfin, je veux dire, je pense que Mélenchon devrait réfléchir effectivement sur la situation actuelle et que c'est Julliard qui disait il y a quelques minutes, je sais pas quand, qu'il disait attention à ce que la gauche, si elle se divise comme elle est en train de le faire, elle nous amènera Copé et Le Pen. Moi, je veux dire, et ça c'est une vraie grande réflexion. Donc, je crois qu'effectivement. La gauche de la gauche, qu'est-ce que ça veut dire, la gauche de la gauche hein, bon, la gauche, il y en a qui sont plus à gauche que moi, très bien, définissons ce qu'il en est. Et je pense que là, il serait temps, sur ce type de questions d'ailleurs, on ne les a pas beaucoup entendues, je veux dire, on n'a pas trouvé une solidarité avec le gouvernement et avec l'Assemblée nationale, moi je le déplore.
Et justement, vous avez évoqué les prémices d'une alliance entre l'UMP et le Front National, ça va être la vérité de 2014 ?
J'en sais rien, si vous voulez. Moi, je l'ai connu, hein. Je veux dire, lorsque j'ai été président de la région, j'ai été battu parce que M. Gaudin avait fait alliance avec le Front National. Et à l'époque, personne n'avait moufté, personne n'avait parlé. Ce qui est drôle, d'ailleurs, 6 ans après, Millon a été obligé
de parler. Beaucoup de monde en avait parlé, je pense.
Bien sûr, mais je ne parle pas encore du fleuron de l'information radiophonique. Mais je veux dire, il y avait Plantu dans Le Monde qui régulièrement faisait des petits dessins, ça c'est sûr. Mais enfin, c'était passé comme ça. Bien. Est-ce qu'on va y retourner ? Je dois dire que lorsque j'entends certains discours, au niveau des municipales, lorsque j'entends M. Miron prendre la parole en comité d'intérêt de quartier avec une invraisemblable au niveau du discours qu'il tenait, je me dis, mais grand Dieu, qu'est-ce que c'est qui le sépare du Front National ? Et est-ce que ça signifie qu'on envisage peut-être des alliances ? J'en sais rien, je ne le souhaite pas, je ne le pense pas, je ne l'espère pas. Mais non pas simplement en termes politiques et politiciens, je ne l'espère pas. C'est en termes, je dirais, de trahison de sa propre pensée. Quoi.
On a vu Gilbert Collard manifester auprès de l'UMP ce week-end contre le mariage pour tous.
Oui, c'est de lui que j'évoquais lors de la fameuse formule « Sauvons le code civil ». D'abord, il faut le connaître. Mais ensuite, il faut voir ce que c'est quand même que l'évolution du code civil. Enfin, je veux dire qu'un avocat puisse tenir ce genre de discours, c'est assez accablant.
Mmh. On a vu aussi Dominique Tian, un député marseillais, faire le coup de poing face au CRS dans la rue.
S'en vanter.
Ben, ça devait lui rappeler un peu sa jeunesse, ou je ne sais pas quoi. Effectivement, alors M. Tian, qui se voit maire de Marseille, successeur de M. Gaudin, est-ce qu'il prépare une alliance dans sa tête ou dans les faits ? J'en sais rien, mais s'il veut gagner la ville, il pense qu'il a besoin de ça.
Alors, autre grand débat qui surgit dans l'actualité, c'est celui de la transparence due à l'affaire Cahuzac. Tout le monde montre son patrimoine. Vos réactions là-dessus ?
Si vous voulez, il y a un côté un peu ridicule. Parce que ceux qui veulent mentir, ils continueront à mentir. Vous imaginez bien qu'ils ne vont pas dire eh « ben oui, j'ai un compte à Shanghai ».
À noter que les feuilles d'impôt ne seront pas publiques, elles. Hein. C'est-à-dire voilà. Que les rois de la ristourne pourront toujours trafiquer la feuille d'impôt. Quoi.
Tout à fait. Moi, je ne suis pas contre, moi, si vous voulez, la publication des feuilles d'impôt de tout le monde, d'ailleurs. Je trouve que c'était pas... C'était Giscard qui avait lancé ça à un moment, d'ailleurs. Ça n'a pas été suivi des faits, mais c'était pas idiot. Donc, je veux dire... Ça me paraît un peu ridicule, si vous voulez, parce qu'encore une fois, s'ils veulent mentir, ils continueront à mentir. Ça va ouvrir des portes pendant X mois à des contrôles, parce que lorsque tel ministre va déclarer j'ai un petit appartement à tel endroit que j'ai payé tant, bah, y aura de vos collègues qui iront consulter les agences immobilières du quartier.
Ce qui s'est fait d'ailleurs pour Marie-Arlette Carlotti, disons les choses comme elle
l'a. Ah, j'avais pas vu.
Challenge a sorti un papier disant que l'élu aurait minimisé, selon une agence immobilière du 5e, aurait minimisé le prix de son appartement.
Ben c'est parti, hein, si vous voulez. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va être ça partout. Quelqu'un qui vous dit j'ai trois bicyclettes. Enfin, c'est se moquer du monde quand même. Qu'est-ce que ça signifie? Bon. Donc, si c'est fait avec le sourire, ça m'amuse. Si c'est fait sérieusement, mais je ne crois pas que ce soit fait sérieusement. D'ailleurs, je crois qu'elle l'a fait avec le sourire. Mais tout ça, il y a un côté qui ne veut rien dire. Encore une fois, c'est pas là-dessus. Et puis, je vous dis une chose, alors, lorsque je vois un ministre qui a 50, 60 ans, etc., ce qui est normal pour un ministre, s'il a rien, je me méfie de ce que ça a été sa carrière.
Faites référence à Moscovici ?
Il a pas 50 ans, c'est Moscovici.
Non, mais il a pas grand-chose. Je crois qu'il a 3 000 euros.
Il a pas le permis. Ouais. J'en ai vu qu'il a 100 euros et j'ai vu qu'il y a même certains qui étaient à découvert. Alors bon, c'est vous dire l'état de détresse.
Mais ça, c'est un argument qu'a utilisé Marine Le Pen sur le. Si un ministre n'est pas riche, c'est qu'il a raison.
Je veux dire,
la France.
Attendez, c'est pas. Si, je veux dire, c'est pas un problème de gouverner. Mais enfin, si quelqu'un a 50 ans n'a pas fait un peu de carrière, fait sa carrière, surtout quand on a été parlementaire pendant 20 ans. Vous n'allez quand même pas faire croire que les indemnités d'un député ou d'un sénateur, c'est le SMIC. Hein. On le sait très bien.
Donc, vous nous dites finalement que François Hollande a tout faux et que face à l'opinion publique attend quelque chose, Cahuzac, ça impacte, ça crée quand même une crise de confiance. Et cette réponse-là n'est pas la bonne.
Je ne dis pas que François Hollande a tout faux, au contraire. Je pense que François Hollande, si vous voulez, d'abord, il joue sur le temps. Il sait que lui, il est là pour 5 ans.
Bon. 4 ans.
Oui, enfin, il était là pour 5 ans. Mmh. Très bien. Bon. Et il pense, il peut considérer, il peut analyser qu'effectivement, il y aura un ressaisissement un petit peu, si vous voulez, de à la fois de l'organisation financière de l'Europe, qu'il pourra y avoir la crise moins forte, et il imagine que donc dans 4 ans, 3 ans maintenant, si vous voulez, il peut y avoir un basculement au niveau de l'économie et donc il pourra jouer avec l'économie. Et qu'il se donne ce temps sur un point qui me paraît quant à moi essentiel et qui a quand même été son grand discours, la réindustrialisation de la France.
D'accord, mais là vous vous éloignez de la question de la moralisation de la vie publique, de la transparence et d'éléments...
Mais là,
pour assurer sur la gouvernance.
Mais là, qu'est-ce qu'on fait ?
Vous pensez que c'est pas un sujet ?
Si, c'est un sujet.
L'Assemblée se réunit, il va y avoir une proposition de loi mercredi ?
C'est un sujet, c'est pas un vrai grand sujet. C'est un sujet qui fait surfer, qui fait, très bien, c'est un peu l'écume. Après, ce qui est arrivé sur l'affaire Cahuzac, il était normal qu'il y ait un ressaisissement, qu'il y ait encore une fois on rediscute sur comment mieux organiser, comment mieux voir quelle est la réalité des personnes.
Vous avez été surpris, vous, par l'affaire Cahuzac ? Vous le connaissiez pas, j'imagine ?
Ah non, moi, c'est un homme politique que j'ai jamais connu, Cahuzac. Non.
Vous avez été surpris qu'un homme politique de cette ampleur, ministre de surcroît, mente comme ça et, comme il dit lui-même dans sa psychanalyse, une part d'ombre ?
Mais vous savez quel est mon métier, hein, je suis avocat. Donc,
c'est pour ça que je vous pose la question.
Le nombre de menteurs que j'entends, il est quand même assez considérable. Je suis innocent de tout, et puis après on trouve l'ADN, et alors qu'est-ce que vous faites ? Mais c'est une fausse ADN, après on va trouver des photographies, ah mais c'est des fausses photographies, et puis à la fin, ça finit par arriver. Donc je veux dire, c'est encore une fois, c'est mon métier de voir des gens qui mentent, parce qu'ils s'enfoncent.
Donc ceux qui demandent à la rue Solferino la constitution d'un comité d'éthique, d'irréprochable, entre guillemets, c'est quoi ? C'est du romantisme ?
Non, moi ce que je dis, si vous voulez, ce qui m'interpelle, comme on dit, puisque c'est à la mode, lorsque j'entends François Hollande dire on va faire un grand parquet financier, on va faire... Écoutez, la France, au niveau des élus locaux, il existe les chambres régionales des comptes.
Qui ont moins de pouvoir depuis Sarkozy, d'ailleurs.
Alors, c'est ce que j'allais vous dire. J'ai connu, moi, la période de leur création et du travail. Je ne peux vous garantir que tous les élus tremblaient devant les chambres régionales des comptes. Tous les élus. Sarkozy est arrivé, on a supprimé un grand nombre de chambres régionales des comptes, il y en a plus par région maintenant. On a supprimé des magistrats, des moyens de travail et leur pouvoir. Tout le monde s'en fiche aujourd'hui. Les rapports descendent 5 ans après, 3 ans après, ça n'a plus aucun intérêt. Donc refaisons fonctionner cette machine des chambres régionales des comptes, redonnons-leur les pouvoirs et donnons des magistrats. Et au niveau du financier, il existe les parquets financiers. Partout, dans chaque tribunal, il y a un parquet financier. Là aussi, permettez que les substituts qui sont délégués à être parquets financiers, on ne diminue pas leur nombre, qu'ils aient des greffières et des greffiers qui fonctionnent, que les juges d'instruction dans les services financiers, là aussi, on ne diminue pas leur nombre, et ils feront leur travail. On n'a pas besoin de réinventer une machine avec une espèce de parquet général national qui aura besoin de moyens, qui va se mettre en place quand, sur quelle durée, avec quelles possibilités. Des instruments existent, faites fonctionner ces instruments, c'est ça ce que je ne comprends pas.
Alors au lieu de ça, on parle peut-être aussi d'une loi qui interdirait de cumuler certaines professions avec certains mandats, et en particulier par exemple la profession d'avocat.
Là-dessus, un de vos collègues, Gilbert Collard, oui. Du Front National, en tout cas avec Marine Le Pen, lui s'en plaint beaucoup parce qu'il ne peut pas faire fonctionner pleinement son cabinet. Il est pénaliste comme vous, je crois.
Oui, ça je ne sais pas ce qu'il fait, hein. Mais je veux dire, le non-cumul de mandat en matière élective, alors je suis à 100% pour. Vraiment, parce que d'accord. Je considère qu'on ne peut pas effectivement être président d'un exécutif et puis en même temps siéger au Parlement ou avoir un autre exécutif. Ça ne tient pas la route. Quand on voit aujourd'hui la difficulté des mandats et de ce que représente effectivement l'engagement politique. Sur les métiers, écoutez, moi effectivement j'ai siégé, j'ai animé fortement la commission des lois, j'ai présidé la commission européenne qui transpose en droit français les directives européennes. Si à la commission des lois, il n'y a plus de juristes parce qu'il n'y aurait plus d'avocats, c'est quand même invraisemblable, quoi, je veux dire. Moi, le côté qui m'inquiète dans ce système-là, c'est est-ce qu'on va arriver vers un système où le schéma classique sera donc, vous faites l'ENA, quand vous sortez de l'ENA, vous avez droit à une circonscription législative, ayant droit à une circonscription législative, vous aurez droit plus tard à un ministère. Si c'est ça qu'on veut mettre sur pied, inutile de vous dire que je suis particulièrement contre.
On peut quand même, sans aller jusque-là, mettre entre parenthèses sa vie professionnelle durant un mandat électif, d'autant que
attendez.
Le salaire n'est pas négligeable, celui d'un député est quand même assez confortable, je pense.
Ah non, je suis pleinement d'accord avec vous, je veux dire. Je considère que lorsqu'on est parlementaire, c'est un peu quand on est ministre, vous pouvez interrompre votre carrière. Moi, pendant les années où j'ai été parlementaire, je n'ai plus ni consulté, ni plaidé, ni rencontré. C'est mon associé qui a pris le cabinet, qui a suivi mon cabinet. Je n'ai plus mis les pieds, je n'ai jamais consulté. Donc qu'on puisse se mettre en dehors, oui, mais rompre complètement, je veux dire quitter par exemple le barreau pendant cette période... C'est pour les professions libérales, c'est impossible. Ça signifie que les professions libérales n'auront plus jamais accès à devenir parlementaires et qu'il faut être fonctionnaire pour pouvoir être député. Parce que le fonctionnaire, lui, quand il est à l'Assemblée, à l'intérieur de sa structure administrative, il continue à monter les échelons. Et donc, quand il a fini son cycle de député, il est encore mieux placé à l'intérieur de l'administration. Si c'est une Assemblée nationale que l'on veut comme ça, c'est impensable.
Alors là encore, ça ne plaît pas en faveur de François Hollande. C'est-à-dire que effectivement, les chambres régionales des comptes, vous avez soigné le problème. Le non-cumul des mandats, la réforme est repoussée vers peut-être 2017. Et puis, on ne sait pas très bien quels seront ses contours. On sent qu'il y a quand même énormément de réticence au sein du Parti socialiste. Et François Hollande n'a jamais été très enthousiasmé par cette idée-là. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas une agitation un petit peu pour donner à manger à l'opinion qui demande des mesurettes et des grandes réformes comme ça structurelles sont repoussées ou diluées?
Mais j'espère que François Hollande reviendra sur l'idée de 2017 et qu'il remettra en 2014. Je veux dire, je crois que ce qu'attendent les gens, c'est ça.
C'est pas des mesurettes.
Ils attendent des mesures. Et je crois que une des grandes mesures que l'on attend, c'est celle-là. C'est effectivement dire, attendez, vous êtes maire de Marseille, vous n'avez pas être sénateur, vous êtes président de je sais pas quoi, vous pouvez pas être en même temps. Je crois que c'est ça ce qu'ils attendent des gens. Ils veulent des gens qui soient à plein temps à l'intérieur de leurs fonctions. Et ça, effectivement, repousser à 2017, ça me paraît être une très grosse erreur.
Mais le Parti Socialiste, qui est un parti d'élus, ne veut pas de cette réforme. Enfin, beaucoup, en son sein, n'en veut pas de cette réforme.
Eh bien, écoutez, ils ont voté, ils ont été élus. Vous savez, moi, je considère comme particulier... Attention, prenez la différence que je fais, et tu sais, on pourra l'évoquer après, hein, je veux dire. Mais les sénateurs, ils n'avaient signé aucun papier, parce qu'ils avaient été élus avant. Mais tous les parlementaires qui siègent aujourd'hui du groupe socialiste, ils ont tous signé un papier que leur a fait signer Martine Aubry, sur lequel ils s'engageaient.
Pas tous, certains se sont abstenus. Mais, Michel Bozel s'est abstenu, je crois.
Alors, ceux qui se sont abstenus, encore une fois, après tout, pourquoi pas, le parti leur a quand même donné l'investiture, c'est fait, ils sont loyaux avec leur signature. Mais ceux qui ont signé ces papiers et qui aujourd'hui contestent encore une fois le texte de loi, sincèrement, j'ai pas beaucoup d'estime.
Vous pensez à François Rebsamen, sénateur ?
Oh, je pense à X. Mais Rebsamen n'a pas signé le papier, si vous voulez, à l'époque. Parce que les sénateurs, ils n'étaient pas dans cette... Ils le sauront en 2014. Mais là, il n'était pas. Alors, c'est un peu joué, je vous l'accorde. Mais de toute façon, quand vous signez, c'est un engagement physique et intellectuel. Et je veux dire, comment vous avez pu signer un papier en disant « Je m'engage à effectivement démissionner à ne pas, et à ne pas accepter le cumul » et quelques temps après dire « Ah oui, mais si je me retire, vous rendez compte, on va perdre la circonscription ». Enfin, attendez, tout ça est une...
Et ceux qui disent que finalement, si le Parti Socialiste le fait de manière unilatérale, ça va l'affaiblir par rapport à l'UMP qui, lui, sont contents très bien.
C'est des jeux de coulisses.
Michel ?
On vous a interrompu. Vous pensez que malgré cette affaire Cahuzac, malgré ce dont on parle, le quinquennat de François Hollande n'est pas foutu. Il y a moyen pour lui de reprendre la main et de mener une politique, en particulier économique et sociale, digne de ce nom.
Je le pense. Je pense que si vous voulez, c'est vrai qu'une des grandes difficultés aujourd'hui sur le discours de Hollande, c'est sa volonté qu'il a fortement exprimée et sur laquelle il a raison, de demander à ce que l'Europe arrête un peu l'austérité et que l'Europe fasse un grand financement, si vous voulez, en matière de travaux. On voit bien qu'il y a une difficulté avec l'Allemagne. Comment ça va se passer ? C'est encore une fois le couple qui marche le plus et qui a toujours fait marcher l'Europe. Je crois que là, il a une sérieuse difficulté avec Mme Merkel. Bon, Mme Merkel est soumise aux élections, on verra bien ce qui va se passer après. Peut-être qu'après, elle aura elle aussi une autre attitude. Moi, je pense que le quinquennat n'est pas du tout fichu. Je veux dire, Hollande a sa façon de gouverner qui nous étonne. C'est pas celle de Mitterrand, c'est pas celle, encore une fois, de Sarko. C'est une façon à lui d'être, quoi, je veux dire.
C'est une gouvernance par réaction, on peut dire ça comme ça ?
Je crois qu'il y a eu ça au départ. Je crois qu'il y a eu ça au départ. J'ai toujours considéré, moi, si vous voulez, que cette espèce de culte de la normalité était c'était pas très sérieux. Quand on est président de la République, on n'est pas normal. Si vous voulez que je vous dise, on peut appuyer sur un bouton et faire une guerre nucléaire. On a des responsabilités extrêmement lourdes, donc on peut pas se mettre dans la peau, encore une fois, de Monsieur Tout le Monde. Et ça, Il a montré à un moment de la guerre du Mali, hein, il a été, je crois que le discours présidentiel devenait déjà plus ferme. Je crois que la réalité aujourd'hui, à la fois de la rue, à la fois de ce qui se passe à l'Assemblée, à la fois des groupes et des sous-groupes, va l'amener à jouer un peu plus sur de l'autorité.
Donc on peut espérer la prochaine guerre pour coaguler à nouveau l'opinion.
N'exagérons rien.
Michel ?
Ce qui nous fait une transition très, très, très directe vers le local. On l'a dit dans le portrait en introduction, donc vous demandiez une mise sous tutelle de la Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône et une fois n'est pas coutume, les choses sont allées très vite oui. Et de fait c'est le cas. Alors est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que comment ça se passe déjà ? Est-ce que vous avez des informations sur le fonctionnement de cette mise de cette fédé sous tutelle ?
Je rappelle quand même pour les auditeurs que c'est Alain Fontanel, secrétaire national aux fédérations, et Christophe Borgel, secrétaire national aux élections, qui sont censés gérer les heures et malheurs de la fédé 13.
C'est ça. Alors c'est vrai qu'ils ont fait un plan. Dans ce plan, la première des priorités était l'organisation des primaires. Bon, puisque nous avons quand même une foultitude de candidats, et certains disaient, mais est-ce qu'il faut quand même les maintenir ou pas les maintenir, etc.
Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Le fait qu'il y en ait déjà plus d'un, c'est une nouveauté pour le Parti Socialiste local. Mais il n'y en a pas tant que ça, quand même, pour des primaires. Il y en a 5, 6.
Vous trouvez que c'est pas mal ? Vous trouvez que 5-6, c'est... Oui, ça prouve que nous avons une richesse à l'intérieur du Parti Socialiste qui est extrêmement forte et je m'en félicite. Mais donc c'est pas mal quand même. Bon, et à Marseille-Aix, on a quand même, je dirais, c'est pas un combat à deux, hein, c'est un combat à plusieurs. Donc il fallait organiser ça parce que c'est vrai que la fédération, vous le savez aussi bien que moi, je veux dire, elle est critiquée aux militants qui en sont membres, quant à son mode d'organisation, quant à les structures telles qu'elles auraient dû vivre. Bon, donc il fallait mettre à plat. Alors, il y avait à côté notre collègue Mignard, mon confrère Mignard, qui lui, bon, se place sous l'angle, encore une fois, d'une commission d'éthique, et je crois que c'est une bonne chose. Il avait montré au niveau national pour les présidentielles.
Vous l'avez vu, Mignard ? Il existe vraiment ?
Bien
sûr. On le cherche à Marseille. C'est quelqu'un qui fait, qui est censé être l'arbitre, mais qui n'est jamais sur Marseille, quand même.
C'est un homme discret.
Oui.
C'est un homme discret. Il a fait une belle campagne aux élections législatives. Donc, si vous voulez, il fallait bien préparer ces primaires sans qu'il y ait trop de contestations en disant est-ce que, parce que c'est quand même ça ce qui apparaît derrière tout ça, c'est est-ce que M. Guérini, à travers tout son groupe, influence vers qui il va, vers quel est le candidat sur lequel il veut se précipiter.
Alors, justement, sur le point des primaires, puisque vous y êtes, et de Jean-Noël Guérini, certains s'inquiètent du bon déroulement de ces élections-là et se disent, est-ce que c'est vraiment transposable ? Ce qui a marché au niveau national, est-ce que ça peut marcher au niveau local ? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque plutôt de renforcer les baronnies locales, les clientélismes qui peuvent peser lourd dans un scrutin à plus petite échelle et donc aussi redonner de l'influence à Jean-Noël Guérini qui est toujours en poste.
Vous avez tout à fait raison et c'est là la difficulté. C'est-à-dire que les primaires, elles réussissent si vous avez vraiment, je dirais, le corps électoral qui viendra aux primaires par sympathie, par envie de soutenir tel ou tel candidat ou candidate, peu importe.
On l'a quantifié, le corps électoral ?
Ben non, je me souviens plus. Je crois que pour les primaires de François Hollande, je crois qu'il y avait à Marseille, il y a eu quelque chose comme près de 25 000 électeurs. Si, sur les primaires aux municipales, nous sommes très en deçà de ce chiffre, ça sera très mauvais. Très mauvais. Bien. Si, par contre, on a un chiffre qui vraiment est un chiffre fort, peut-être pas 25 000, parce qu'il n'y aura pas la même appétence, mais si on a une 20 000 électeurs, là, ça a une signification. Et là, on casse le jeu. On casse le jeu de la féodalité. Sinon, chacun raisonne en disant bah, « Madame Galli, elle va faire des voix dans le 15-16, Monsieur Minucci fera des voix dans le 1-3, enfin, je veux dire, Madame Carlotti dans le 4-5. » Si c'est ça, c'est une catastrophe. Hein.
Bon. Vous y croyez, malgré tout, là, à ce jour, à cette capacité de mettre en mouvement les Marseillais, les amener à voter à ce scrutin et de casser donc ces logiques de baronnie ?
Je suis sincère, nous n'avons pas encore lancé une mécanique qui permette d'ouvrir ce corps électoral au-delà de celles et de ceux qui sont des manœuvriers. Bien. Donc, il faut à tout prix casser ça. Bon. Alors, est-ce qu'on va créer chez les électeurs, chez les citoyens de Marseille, qui ont envie d'un changement, qui ont envie que la gauche gagne, est-ce qu'on va créer cette espèce de mouvement ? Si on le crée, c'est très bon et on peut gagner. Si on le crée pas, je suis particulièrement
sceptique. Quelles seraient les conditions justement pour créer cette dynamique et faire en sorte que ces primaires soient des primaires équitables, que ce soit le début d'autre chose et la fin de ce que l'on connaît déjà ?
Je crois qu'il faut casser la chape de plomb que nous avons au Conseil général, parce que les gens ne comprennent rien. Ils disent « Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là »
Bien. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait concrètement ? Rien que sur cette question-là, qu'est-ce qu'il faudrait ? Puisque vous, par exemple, avec d'autres, vous vous opposez à Jean-Noël Guérini, vous l'avez dit, ça a été écrit, etc. Malgré tout, la défiance se maintient. Qu'est-ce qu'il faudrait en plus ?
Je pense qu'il faut que le Parti socialiste, au niveau national, prenne des décisions. Après,
l'équivalent de Cahuzac, c'est-à-dire
Oui, équivalent de Cahuzac. Alors après, effectivement, c'est un problème personnel à M. Guérini. Hein, je veux dire, encore une fois, vous le savez, la loi lui permet de... Il n'y a pas un texte, il n'y a rien. Bon. Et moi, ce que je déplore, c'est que M. Tessier, à la fin de la législature précédente, avait déposé un texte sur ce thème, dont j'ai saisi le gouvernement... Et pour le moment, ce texte, pour le moment, il apparaît guère. Hein.
Vous parlez un peu en creux. Vous demandez que le Parti socialiste exige la démission à nouveau de Jean-Noël Guérini.
Oui,
ou qu'il est en retrait.
Son retrait, du Parti défense. Socialiste, en tout cas. Je veux dire que...
L'exclut du Parti socialiste.
Qu'on ne puisse plus avoir cette connotation. Mmh.
La Grande Tchatch, le Ravi, Radio Grenouille, avec nous aujourd'hui Michel Peset, et on parle de primaire et du Conseil Général des Bouches-du-Rhône. Michel Guéron.
Lors de la dernière plénière au Conseil Général, vous êtes abstenu seulement vis-à-vis du budget. Est-ce que ce n'est pas une position un peu en retrait ? Pourquoi ne pas avoir voté contre puisque vous vous opposez à cette gouvernance ?
Non, le budget, il y a deux choses. Vous avez le budget lui-même. Le budget, il a été fait par les services, il a été fait par les collègues, même si sur certains points, j'étais pas d'accord avec le budget, c'est-à-dire la baisse, effectivement, des crédits sur la culture, mais je peux l'admettre. Hein. Moi, j'ai rapporté devant mon groupe, j'ai été mis en minorité par mon groupe sur ce que je disais, je l'admets, hein. Moi, j'admets ça. Donc, c'est pas le budget en tant que tel, si vous voulez, que je critiquais. Hein. Le budget en tant que tel, il tient. On a un bon budget. Bon. Ce que je critique, c'est effectivement la gouvernance. Donc la gouvernance, donc je peux pas voter contre un budget qui a été fait encore une fois par des collègues et par des services et qui est un bon budget.
Mais pourquoi ne pas aller à la crise si c'est pas la seule solution pour faire imploser les choses? Pourquoi ne pas aller jusqu'à voter contre tout simplement et devenir véritablement un vrai marqueur? Parce que là on a l'impression que vous entretenez les conditions d'un futur armistice peut-être. Je dénonce d'un côté, mais je m'abstiens juste.
Non, mais ça c'est mon côté légaliste, si vous voulez. Non, c'est vrai, je reconnais, hein, je veux dire, vous savez, et tu sais, si ça m'a pas servi à un certain moment à la municipale de Marseille, hein, d'avoir été légaliste, bien, je m'étais incliné sur une position qui était d'ailleurs une fausse position, qui m'avait été mal transmise, j'ai appris par la suite, plusieurs années après, et j'ai dit, très bien, moi si le parti dit que certains doivent être exclus du groupe socialiste pour voter, je les accepte, je n'aurais jamais dû accepter, mais je suis comme ça, très bien. Donc, encore une fois, moi, je ne veux pas critiquer quelque chose sur lequel je pense qu'elle est bien. Bon, donc ce budget était bien, je l'ai voté. Bon, enfin, j'ai pas voté le budget. Je fais la différence, si vous voulez, entre l'aspect politique et l'aspect administratif. Voilà ce qu'il en est. Donc, une crise sous cet angle-là, et même si avec Mme Carlotti et Mme Ecochard, et cette fois M. Noy d'ailleurs, si nous avions voté à 4 contre, le budget y passait, hein, je veux dire. Bon. Et alors j'ai justement, pas envie, moi, de me retrouver avec un budget qui sera géré par le préfet pendant X mois.
Et pourquoi pas ?
Comment pourquoi pas ?
Et pourquoi pas ?
Ah, parce que ça, là, c'est la négation, si vous voulez, des élus. Il y a quand même des élus qui assument des responsabilités à l'intérieur du département et qui, dans l'ensemble, les assument bien.
Alors, autre question, effectivement, vous venez de le souligner, quatre élus seulement qui s'abstiennent, donc qui manifestent un mécontentement. Pourquoi vous êtes toujours aussi minoritaire alors que la séquence vous semblait favorable avec la mise sous tutelle de la Fédération des Bouches-du-Rhône? Pourquoi les conseillers généraux, jusque dans les rangs du front de gauche, restent aussi fidèles et aussi alignés derrière leur président? Est-ce que ça ne lui donne pas une légitimité à toi, rompre?
Je ne rentrerai pas sur le débat sur la légitimité parce que j'ai cru m'étouffer l'autre matin en attendant. Je ne sais plus quelle radio M. Guéant parlait de l'illégitimité de l'Assemblée nationale. Donc, je veux dire, c'est pas là-dessus. Je veux dire, pourquoi les conseillers... Parce que la plupart sont maires. Hein? Ils sont maires de communes. Et il y a 2014, il y a les élections municipales. Et ils veulent aboutir sur certains travaux, sur certaines réalisations. Et ils ont besoin des subventions du Conseil général. C'est pas autre chose.
On en revient au fameux clientélisme.
Bien sûr. Bien sûr, c'est pas autre chose. Eux, ils se disent, attention, moi je veux à tout prix sauver ma mairie, je veux être réélu, je veux aller jusqu'au bout. Qui est-ce qui va m'aider? C'est pas l'État, c'est personne d'autre. Donc je reste.
Donc aujourd'hui, dans les Bouches-du-Rhône, l'homme fort du Parti Socialiste, c'est toujours Jean-Noël Guérini.
Alors, du Parti Socialiste, j'en sais rien, puisqu'il est sous tutelle maintenant. Mais en tout cas, d'une réalité politique, c'est vrai.
Michel?
Donc les primaires vont s'organiser dans ces conditions-là.
Mais c'est ce que je vous dis. Où effectivement, on arrive à casser le jeu, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas avec quelques apparatchiks de la fédération tenant l'organisation de ces primaires. Et là, il y a une vraie ouverture. Et à ce moment-là, il peut y avoir un appel, encore une fois, à ce que j'appelle la citoyenneté de Marseille ou d'Aix-en-Provence. Et on peut gagner si ça ne marche pas, si les gens disent « mais qu'est-ce que c'est, on n'en a rien à fiche, enfin, etc. » Eh bien, il n'y aura rien.
Là, on a vu Patrick Mennucci qui a lancé, en quelque sorte, la campagne des primaires. On vous a vu aller à son meeting. Ça veut dire que vous prenez position pour lui ou que vous entendez tout le monde, vous écoutez tout le monde?
Ça veut dire que j'ai quand même qu'aux primaires nationales, je suis allé à tous les meetings. J'irai à tous les meetings en ce qui concerne les candidats aux primaires. Je trouve que Mennucci connaît parfaitement les problèmes de Marseille, il les connaît très très bien, je trouve que c'était une bonne présentation, c'était un peu long, mais c'est normal. Hein. Je trouve d'ailleurs qu'il a... Il a un peu coincé tous ses collègues, hein, parce qu'en faisant un grand plan sur le développement de Marseille, sur les grandes idées de Marseille, eh ben, les autres, il va falloir qu'ils présentent aussi, hein, et qu'ils rament. Hein, bon. Mais voilà, j'irai à tous les meetings. J'étais avec Mme Écochard et on l'a toujours fait.
Et vous, vous ferez un meeting ?
Un meeting ? Non, je ne suis pas candidat au primaire.
Sous-entendu, vous êtes candidat, vous ne serez pas candidat, c'est sûr, au primaire.
Je ne suis pas candidat du tout au primaire, non.
Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'un candidat trouve grâce à vos yeux, hormis un grand plan pour Marseille? Parce que là, pour l'instant, on a vu Carlotti avec son livre, c'était pas très précis, Patrick Minucci...
Mais il y en aura un second.
Un second quoi?
Eh ben, un second livre de Mme Carlotti, elle m'a dit qu'elle a, je crois qu'il y a un second livre.
D'accord, un scoop.
Non, c'est vrai, non?
Non, je vous crois.
Non, t'es pas au courant, mais...
Oui, je crois qu'elle a annoncé un second livre, oui.
D'accord.
Michel?
On vous dit par contre candidat à la succession de Jean-Noël Guérini si l'occasion se présente. C'est quelque chose qui se dit depuis 2 ans d'ailleurs. Oui. Vous démentez, vous dites oui si nécessaire, si on fait appel à moi, si...
Vous avez trouvé la formule. si effectivement on fait appel à moi, et je suis prêt à me sacrifier. Non, c'est sûr que c'est ça, c'est un autre débat, je veux dire. Mais je pense que le département, il l'a aussi, hein, 2015... Enfin, comment peut-on aujourd'hui, dans cette grande question qui a été celle, qui est celle, parce qu'elle n'est pas finie, de la métropole, le Conseil général est apparu comme étant la force contre le gouvernement. On allait manifester contre Mme Le Branchu. On a envisagé de manifester si monsieur Hollande était venu inaugurer 2013. Je tombe sur la tête que des élus de la majorité et autres, de l'ancienne majorité, veuillent manifester, je les comprends. Mais que nous, on manifeste contre notre propre gouvernement qu'on a soutenu, il y a de quoi s'étonner. Ensuite, on a tous conscience que si Marseille aujourd'hui était en parfaite santé, les gens viendraient avec Marseille. C'est parce que Marseille est en difficulté que plus aucune commune ne veut venir. Et nous, on continue une espèce de politique de village gaulois où on donne comme ça à toutes les mairies du département, mais surtout gardez bien chez vous, faites ce que vous avez envie de faire. Alors vous voyez des investissements, très bien, c'est pas inintéressant, il n'y a pas d'investissement inintéressant, mais qui ne sont pas prioritaires. Alors que vous avez dans Marseille même des investissements qui, eux, sont prioritaires. Donc, je ne peux pas le suivre.
Si vous étiez président du Conseil général, vous seriez capable de soutenir une réforme qui remettrait en cause, finalement, une partie des pouvoirs de l'institution que vous présiderez? Parce que quand même, cette métropole, elle marche sur les pieds du département, clairement.
Oui, bien sûr, mais attendez, je crois que...
Il faut le faire.
Il faut réimaginer les choses. Alors il faut faire attention, parce que moi je considère qu'il faut le faire, qu'il faut réimaginer les choses. Vous avez vu que ce qui s'est passé en Alsace, ça a été une gifle. Hein, et là, en plus, il y avait quand même de grands élus, comme on dit, qui soutenaient cette réforme. Hein. Ils ont été battus. C'est vrai que je suis persuadé que... Dans l'imaginaire des gens, dans la réalité pratique des gens, le département, ça a une signification. D'abord parce que c'est historique, parce que c'est vieux, parce que tout le monde les connaît, parce qu'on connaît ses conseillers généraux. Et je dis souvent d'ailleurs, moi j'ai découvert, devenant conseiller général, que ce sont les élus qui sont le plus proches du terrain. Les conseillers municipaux, vous n'en voyez pas beaucoup. Vous n'en voyez pas beaucoup. Hein. Ils attendent des élections, comme ils sont élus à la proportionnelle, ils risquent pas grand-chose. Les conseillers généraux sont sur le terrain et rencontrent les gens. Et ça, c'est la chose que j'ai découvert et que je trouve formidable. Un des dangers, c'est que d'un seul coup, chaque conseiller général va considérer que son canton, c'est la 8e merveille du monde. Et donc, tout doit se faire dans son canton. L'esprit, si vous voulez, de l'ensemble du département, on le perd. Mais c'est ce qui se passe aussi à la région, hein. Ça devient des départementalistes. Bon. Donc, tout ça n'est pas bon. Tout ça n'est pas bon. Et donc, qu'il faille réimaginer aujourd'hui une décentralisation de la France, je le crois. Je crois que, également, pour répondre un peu à la question sur le développement de ce qui peut se passer, sur l'industrialisation, la façon d'imaginer la France de demain, il faut aller plus loin dans la décentralisation. Donc, ça signifie qu'il faut réimaginer tout ça. Si cela signifie qu'effectivement il faut supprimer la communauté urbaine de Marseille, le département, etc., pourquoi pas ? Si on imagine quelque chose d'intelligent, de plus fort, de solide et de convaincant.
Vous pensez que c'est un débat qui va s'apaiser après les sénatoriales ?
Mais après les sénatoriales, les choses risquent de changer parce que, enfin, vous voyez bien, M. Guérini prépare ses sénatoriales. M. Godin, il prépare ses sénatoriales. Et il n'est pas au premier plan hein, de la métropole. Hein. C'est pas lui qui porte le fanion parce qu'il veut s'équilibrer avec les maires du département. Donc tout ça fait qu'effectivement, ça retarde de prendre une véritable... Non pas une véritable décision. Moi, je l'ai écrit et je l'ai dit. Je considère que l'idée, encore une fois, d'imaginer un grand espace est indispensable aujourd'hui. Les gens qui veulent de l'emploi, ils ne l'auront pas à Marseille. Ils prendront un bus, ils prendront un train et ils iront ailleurs, sur l'ensemble du département. C'est là où ça se crée l'emploi. Donc tout ça, c'est une évidence. Mais faisons-le par étapes. Bon, et c'est pour ça que j'avais proposé, encore une fois, de dire, bon, ben, écoutez, cette année, on fait ça, vous pouvez envisager ça. Une espèce de loi évolutive, si vous voulez, à compétence évolutive, qui permettrait d'apprendre aux gens à travailler ensemble et d'apprendre, effectivement, au maire de Marseille à travailler avec le maire d'Aubagne, de Martigues et la mairesse d'Aix-en-Provence.
Mmh. Vous avez évoqué le cas de l'Alsace tout à l'heure, le référendum. L'appellent de leur vœu ici, Gaby Charroux, notamment à Martigues. Ça, c'est la solution, une question aussi simple que celle du référendum pour le projet métropole?
Non. Ma réponse, elle est non. Si vous voulez, le référendum, hein, moi, je pense toujours à cette affiche. Hein, vous voyez une grande affiche avec référendum, et puis alors il y a un ouvrier qui a la casquette enlevée, et puis le bourgeois à côté. Et le bourgeois dit à l'ouvrier, le référendum est un mot latin qui veut dire oui ou non. Il choisit lui-même. Bien. Et si vous voulez, ça signifie qu'effectivement, organiser un référendum, il faut que les gens soient éclairés complètement, de façon objective. Ensuite, ils tranchent. Ils tranchent. Mais sur quelque chose qui, d'un seul coup, leur tombe sur la tête... Les Français, ils sont pas très changement. Hein. Mmh. C'est pas un peuple qui bouge vers le changement. Donc, d'un seul coup, on va dire, comprenez, votre département va être supprimé, tout ça, c'est fini. Oulala, 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 oulala. Paf, j'ai le réflexe, encore une fois, de conservatisme. Ça demande encore une fois des réunions, des explications, un vrai grand débat. Est-ce qu'aujourd'hui, comment organiser aujourd'hui un grand débat démocratique? C'est quand même ça la vraie question. Mmh. C'est la vraie question.
Un débat qui forcément serait parasité par et les primaires et la situation nationale.
Et bien sûr, et les municipales et les machins et les trucs. Tout ça est faux, quoi, je veux dire. Alors, je crois qu'il y a une... voilà, parce que vous pourriez le lancer sur Marseille. J'ai entendu une... qui a été lancée, je ne sais plus combien de milliers d'étudiants, qui vont recevoir une sollicitation de se proposer qu'est-ce que vous imaginez dans 20 ans. Et alors, c'est France Culture avec je ne sais plus qui, d'ailleurs, quelle université, qui a lancé ça. Je trouve que c'est une très bonne idée. Interrogeant un peu ceux qui, dans 20 ans, seront aux manettes, quoi. Je veux dire, qui espèrent et qui le seront obligatoirement. Qu'est-ce qu'ils envisagent? Comment ils envisagent leur territoire? Comment ils envisagent le rapport dans l'Europe? Ça me paraît quelque chose de dynamique et sur lequel il faudrait réfléchir.
Alors, puisqu'on parle de génération, est-ce que vous pensez que la candidature de Jean-Claude Gaudin est une bonne idée? Est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu passer le relais à un moment donné? Ou est-ce que c'est le meilleur dénominateur commun à droite?
Je rappelle que vous êtes de gauche aux auditeurs.
Oui, mais je veux dire... c'est pas moi qui vais la critiquer sur son âge. et je me souviendrai trop de la formule de Jospin qui avait été particulièrement maladroite. Bon. Non, moi, ce que je dis de Jean-Claude Gaudin, si vous voulez, ce que je crois. Voilà, moi, très simplement, ce que je crois. Vous avez vu comme peut-être son film qui a été fait à un moment là, par un de ses étudiants, qui est une espèce de glorification. Bon, très bien, c'était sympathique.
Pourquoi vous acceptez toujours de témoigner dans ce genre de film, documentaire? Il y en a eu plusieurs sur Jean-Claude Gaudin. On a l'impression qu'il y a une espèce de... On se critique tous, on se tire les cheveux, et puis à un moment donné, on se retrouve tous pour se dire du bien uns des autres.
Non, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'était pas très heureux que je participe à la critique du film. Mais je peux être méchant, d'ailleurs. Je n'aime pas être méchant, moi. Bon. Mais Jean-Claude Gaudin, je crois qu'il est aimé par les Marseillais. Ça, pour moi, c'est une vérité. Il est drôle, il est sympathique, il est très bien, bon. Mais je pense que les Marseillais pensent qu'il a déjà fait un mandat de trop. Si c'est pas deux. Bon. Donc celui-là, il est vraiment de trop. Bien. Mais lui, écoutez, je le comprends très bien. Il joue quoi? Il joue sur la crise du gouvernement et les Français qui ne soutiennent plus le gouvernement, et avec la vieille loi qui, quand vous êtes au pouvoir national, vous n'avez plus le terrain, et inversement. Il joue sur le fait que les socialistes sont très nombreux à être candidats, que personne ne va émerger. Donc il se dit, j'ai la chance, encore une fois, de me faire réélire. Il a éliminé l'éventuel successeur, ce que j'avais connu moi aussi. Donc je veux dire, il considère que la place est nette pour lui.
Justement, à ce propos, Michel Pezet, on a lu dans une de vos interviews que vous disiez du bien de Renaud Muselier, parce que le successeur en question, l'éternel dauphin, c'était Renaud Muselier pour Jean-Claude Godin. Vous en disiez du bien, vous souhaitiez même son retour en politique.
Ouais.
Alors expliquez-nous en ce titre. Ça veut dire quoi?
Parce que, si vous voulez, lorsque je regarde le personnel politique à la fois chez moi et chez...
En même temps, il y a quelques secondes, vous disiez il faut que des jeunes disent ce qu'ils veulent dans 20 ans, eux qui auront le pouvoir.
Mais...
Et en même temps, quand il y en a un qui s'échappe du sérail, vous souhaitez le ramener...
Mais parce que je pense que Muselier a réussi sa vie pas à pas avec la politique, hein. C'est un homme qui connaît l'entreprise, c'est un homme qui a travaillé, c'est un homme qui a avancé. Bon, quel âge il a, Muselier? D'or 50 ans. Je ne sais même pas s'il a 50 ans, Muselier.
Oh, ben, il doit bien les avoir quand même.
Oui. Bon, mettons qu'il a. C'est jeune en politique. Bon, aujourd'hui, si vous voulez, sur le panel politique de la droite à Marseille, il n'y a personne que je trouve très convaincant pour succéder à Godin. Donc moi je préfère qu'on monte encore une fois dans la qualité des débats politiques plutôt que de rester dans un débat qui est encore une fois celui de, je sais pas quoi, d'une réalité du quotidien.
Alors toujours surprenant aussi, vous dites du bien maintenant de Bernard Tapie, qui dit du bien de vous.
Tout à l'heure en introduction, Michel Guiraud a dit qu'à 71 ans, vous aviez les compliments de Bernard Tapie.
Oui, mais je les ai lus. Mais je veux dire,
Bernard Tapie qui a reçu Jean-Noël Guérini, qui choisit un petit peu dans la primaire ses candidats préférés. Oui. Le retour de cet homme d'affaires que d'aucuns qualifient d'affairiste, avec ses casseroles, avec ses pratiques, est-ce que ça fait pas de mal, ça, quand même, à Marseille? Est-ce qu'on repart pas justement plutôt en arrière qu'en avant, là?
Attends, moi, ce que j'ai dit, c'est pas parce que Bernard Tapie dit du bien du moi que je vais dire du mal de lui. Bien.
D'autant que vous aviez critiqué, je crois, vous aviez critiqué sa prise, son rachat de la Provence, c'est ça?
Moi, mes discussions avec Bernard Tapie, elles ne remontent pas à la Provence. Hein. Elles remontent quand il a voulu mener la liste au régional, où j'ai refusé d'être sur sa liste. Quand il a voulu être maire de Marseille, je me suis battu à l'inverse. Donc je veux dire, mes rapports conflictuels politiques, humainement, moi, Bernard Tapie, j'ai jamais mangé chez lui, il n'a jamais mangé chez moi, très bien. Hein, très bien.
Des rapports conflictuels dus à la veuve de fer, ou maintenant qu'elle n'est plus là, enfin qu'elle ne gère plus directement?
Toujours là.
Oui, maintenant qu'elle ne gère plus directement, on va dire, les socialistes et des Bouches-du-Rhône, ça se passe mieux entre Tapie et vous, c'est ça?
Non, c'est pas la question, sincèrement. Mais non, je veux dire, voilà, très bien, là-dessus, moi, comme tout le monde, comme vous, d'un seul coup, paf, on m'annonce que Bernard Tapie va essayer d'avoir la Provence. Sincèrement, je ne l'ai pas spécialement aidé pour avoir la Provence. Et j'ai eu quelques discussions. J'ai été moins suivi que pour la tutelle. Ça s'est fait, c'est fait. Très bien. Lorsque j'entends certains dire, attention, à partir de là, on va être dans une situation où il va pouvoir couper, faire ce qu'il veut au niveau du personnel politique ou autre. Écoutez, ceux qui me tiennent ce discours, je les ai connus quand ils coupaient allègrement ma photographie et mon nom dans les manifestations où j'étais. Alors je veux dire, ayez un peu de mémoire. Enfin, n'ayez pas simplement une mémoire sélective de croire que d'un seul coup, autrefois, la Provence, c'était merveilleux parce que c'était la liberté totale, c'était la Pravda. Bien. Hein, à Marseille, vous saviez très bien qu'il fallait lire les trois journaux si vous voulez savoir qu'il y avait une manifestation. La Marseillaise disait que les communistes, le méridional que la droite, et la Provence, le Provençal qui souhaitait y être et était dans la ligne. Donc là-dessus, pas de leçon. Moi, Tapie, il prend la Provence et il prend tous les journaux du Sud. Je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il veut être candidat à la mairie de Marseille? Ça a été mon premier réflexe. Je l'ai pensé. Je le crois, si vous voulez, Tapie, on peut dire ce qu'on veut, et qu'il est de ce que vous avez dit. Je crois que c'est très très curieux, mais j'ai jamais vu cet homme politique courir le guidou. Il y en a beaucoup, on a des célèbres partis socialistes. Bien. Et je crois que c'est, lorsque sa femme et son épouse est rentrée dans le jeu en disant « Je ne veux pas », je crois qu'il écoutera. Je pense qu'il ne sera pas candidat à la mairie de Marseille aujourd'hui.
Bernard Tapie est plus crédible que Cahuzac, donc quand il dit quelque chose, il faut le croire.
Mais en tout cas, lui, son histoire le montre par rapport dans ce rapport qu'il a avec son épouse. Je ne parle pas des rapports ailleurs.
Oui, parce que son histoire, elle est riche.
Mais je pense
en chose dite non, et, ne, et révélée par la suite.
Ne mélangeons pas les genres, si vous voulez. Ne mélangeons pas les choses.
Mais Bernard Tapie, justement, mélange les genres, et c'est toute son histoire et toute sa carrière consiste à mélanger les genres. Il y a quand même une enquête en ce moment au plus haut niveau de l'État sur les conditions de son enrichissement. Et donc, il y a des problèmes lourds qui se posent autour de lui.
Toujours, je ne parle pas de ses rapports en affaires. Je parle de ses rapports personnels. Bien. Encore une fois, l'homme d'affaires qu'il a été, avec tout ce qu'il a commis, tout ce qu'il a fait, comment il a biaisé, comment il a joué, comment il a truqué, comment il a avancé, tout ça est une évidence. Mon opinion, elle est faite sous cet angle-là. Mais sous l'angle de la personne, encore une fois, je pense que ce qu'il dit est vrai. Maintenant, je peux me tromper, attention, je ne dis pas que c'est vrai. Mais vous savez, j'évoquais ma vie personnelle et ma carrière personnelle, surtout. Dans ma carrière personnelle, je vois des gens qui sont plus que des coquins, qui ont fait des choses épouvantables, et qui d'un seul coup, avec ou leur épouse ou leur enfant, sont des papas gâteaux, je veux dire très bien. Et c'est comme ça.
D'accord pour ses ambitions politiques, mais sur le personnage lui-même, et sur le fait que ce personnage se retrouve à la tête du principal média de la région, ne vous pose pas de problème.
Ben, si vous voulez, bien sûr, ça en pose, mais qu'est-ce que j'ai voulu que j'y fasse? Bien. Je veux dire, moi, j'ai essayé. J'ai rencontré du monde. J'ai dit, attendez, essayez de pousser les Belges. On m'a dit, ça ne tient pas la route. Essayez de pousser Pinot, ça ne tient pas la route. Très bien. Moi, j'en prends acte. Aujourd'hui, il fait beau. Demain, il pleut.
Et un Bernard Tapie qui fait comme ça l'arbitre des élégances en vous flattant, vous, en mais disant avec une autre élue sénatrice socialiste, en dînant également avec Jean-Noël Guérini au vu au sud de tout le monde. Ça évoque quoi pour vous?
Mais ça évoque ce personnage. Si vous voulez, je pense qu'il est normal pour lui qu'il rencontre Guérini parce qu'il est à la tête d'une institution qui prend de la publicité. Qu'il rencontre M. Godin, qui est à la tête d'une grande institution qui prend de la publicité. Qu'il rencontrera M. Vozel parce que M. Vozel est à la tête, etc. C'est dans sa logique. Il est vrai. On va pas découvrir
la photo. La photo Tapie Vozel, je veux bien la voir quand même. Ils se sont dit quelques douceurs.
Ils se sont pas vus, je crois.
Oui, je crois qu'ils se sont.
Non,
pas
ils
vus.
Se sont pas encore vus parce que M. Vozel n'était pas là.
Oui, mais je crois pas qu'ils se verront.
Ah ben ça, je peux vous garantir qu'ils se verront.
On verra bien.
Enfin, c'est normal. Attendez, vous êtes. Même si je suis président d'une grande institution, quelqu'un qui représente la presse, pourquoi je dînais avec son prédécesseur, je dînerai pas avec lui. Ou enfin, je rencontrerai dans un rendez-vous, peu importe. Ça me paraît logique, si vous voulez. Là. Alors, encore une fois, on prend acte de la venue de M. Tapie. Je ne dis pas que je m'en félicite. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer un jeu. Quel est le jeu que risque de jouer, à mon avis, si vous voulez, Tapie? C'est un équilibre entre les trois forces qu'on vient de décrire. Il ne va pas se lancer, je ne le vois pas se lancer derrière seul M. Godin, derrière seul M. Guérini ou derrière seul M. Vozel. Il se veut maintenant patron de presse, il va jouer ce jeu-là. Et encore une fois, en quoi moi, Michel Pesset, je condamnerais cette attitude? C'est l'attitude d'un patron de presse. Demain matin, ce serait Monsieur X ou Madame Y, ce serait le même jeu.
Vous n'avez pas l'impression, vous qui êtes un observateur depuis de longues années de Marseille et de cette vie tumultueuse marseillaise, que l'histoire bégaye, on se retrouve quelques années après avec les mêmes acteurs quasiment, Bernard Tapie, qui revient dans le jeu d'une autre manière, mais qui quand même est là. Une faillite de la ville après trois mandats de la droite. C'est quoi? C'est l'éternel recommencement dans cette ville?
Non, c'est pas l'éternel recommencement. Je veux dire, Marseille a
parti
connu,
socialiste
Marseille
est a éclaté.
Connu, oui, mais enfin Marseille a connu des crises beaucoup plus considérables que ce que l'actualité nous met sous le nez. Je veux dire, pourquoi toujours cette tendance à ne jamais se situer dans le temps?
À part la période Sabiani, je vois pas quelle peut être importante.
Ah ben, vous avez eu la période révolutionnaire, vous avez eu Contrussi qui vient de sortir un très joli livre sur Marseille sous Louis XIV. Vous avez, Vous avez comme ça des périodes de l'histoire. Mais enfin, pourquoi ? On ne peut pas faire abstraction de l'histoire. On ne peut pas faire abstraction des choses qui sont passées. Marseille a connu des crises quand il y a eu plus avec l'Algérie, quand il y avait Marseille qui était étouffée. Marseille a connu lorsque les bateaux fonctionnaient normalement. Je veux dire, c'est tout ça, Marseille. C'est pas encore une fois une actualité là, au jour le jour. Ça, c'est pas d'analyse. Ça, c'est quoi ? C'est uniquement regarder ce qui se passe dans la minute. Si vous vous placez toujours à regarder dans la minute, vous n'aurez jamais une véritable explication sur un fait.
Pour autant, vous dites, pour sauver Marseille, il faut y aller, il faut peut-être, alors pas une mise sous tutelle, puisqu'on vous parlait d'histoire comme ça a pu être le cas, on parle de la fédération, mais là je parle de la ville maintenant, mais il faut que l'État s'en mêle et fort, sinon ça ne marchera pas.
D'abord, ce n'est pas simplement l'État. Marseille, lorsqu'on vous dit il faut que le Conseil général et la région aident Marseille, c'est une évidence, mais c'est pas avec ça qu'on va sauver Marseille. Et c'est même pas avec des crédits d'État qu'il n'y a plus d'ailleurs actuels. Alors, très bien. Donc effectivement, il y a un enjeu quasiment européen. Est-ce que oui ou non, l'Europe décide que Marseille est un grand port européen et joue sur la Méditerranée? Ça, c'est un des facteurs essentiels de Marseille. Je crois que Marseille s'est toujours sortie de ses crises. Alors, celle-là, elle est dure. L'histoire nous montrerait aussi ça a duré parfois encore plus longtemps. Aujourd'hui, moi, ce que je ressens quand même des Marseillais, c'est qu'il y a un ras-le-bol de tout ça. Il y a un ras-le-bol. Ah ben oui, écoutez, on n'en veut pas un troisième mandat. Ah ben oui, la gauche, vous avez pas encore décidé qui c'était, c'est pas très brillant. On l'entend. Donc il y a une aspiration à quelque chose. Est-ce qu'on est capable, est-ce que de cette situation, on est capable de faire émerger une nouvelle équipe qui a envie de travailler, qui a envie de faire des choses? Je pense que oui, je pense qu'il y a de l'intelligence, je pense qu'il y a du travail, je pense qu'il y a de l'imagination, je pense qu'il y a de la créativité. Comment organiser cet orchestre? Donc, c'est pas facile.
Vous dites aux Marseillais, précipitez-vous aux primaires socialistes en octobre, votez massivement, la ville peut changer.
Mais,
vous dites quoi alors?
Mais cette réflexion me paraît effectivement très importante, parce que, encore une fois, s'il n'y a pas une espèce de sursaut citoyen dans cette ville, sur les primaires par exemple, effectivement, eh bien, on restera encore pendant quelques années en situation difficile.
Un mot peut-être sur, vous avez évoqué les initiatives, celles prises par Jean Viard, c'est l'ex-soutien sociologue connu, l'ex-soutien de Jean-Noël Guérini, aujourd'hui proche de M. Caselli, qui a lancé le GAM, les groupes d'action métropolitains. Le but, c'est de mettre la métropole au centre de la future campagne. C'est ce genre d'initiative qui peut, quand je vous vois, vous n'avez pas l'air convaincu.
Ben, toute initiative est utile, mais c'est pas avec ça, si vous voulez. Là, il s'adresse. Bon, ça a déjà existé, les GAM.
Dans la Grenoble, dans les années 60.
Oui. Oui, mais on a même vu le GAMES à Marseille. On a vu qu'au fur et à mesure du temps, notre ami M. Ocasera a suivi, avec un flair absolument magnifique, toutes les composantes majoritaires de la ville pour les rejoindre. Donc, je veux dire, c'est pas là, ça, c'est pas ce qui va créer un grand mouvement populaire. Bon, mais ça, c'est bon. Sur ce, il est bon que les intellectuels travaillent sur cette question.
On arrive presque au terme de cette émission. Vous souhaitez le changement. Depuis quelque temps, il y a eu beaucoup de députés marseillais socialistes sur le banc des accusés. Jean-David Ciot, patron de la fédération. La fédération a été mise sous tutelle. Lui est toujours là. Sylvie Andrieux, pardon, qui est députée des quartiers nord. Vous souhaitez également, comme Jean-Noël Guérini, qu'il soit radié du Parti socialiste ? Exclu, en tout cas, du Parti socialiste ?
Allez, si vous voulez. Il y a des choses qu'il ne faut pas mélanger.
Lesquelles ?
Si vous voulez. Certains ont des poursuites sur des détournements de fonds publics. Ça, c'est quand même une chose. Madame Andrieux a été poursuivie, on attend le jugement, sur, non pas des détournements de fonds publics, mais sur, encore une fois, une aide sur laquelle il faudra d'ailleurs que le tribunal se penche pour leur caractérisation juridique. Mais ça, c'est trop faire de manche. Bien. Elle n'a pas été poursuivie du tout pour le moindre enrichissement personnel. Ça, c'est acquis au débat. Elle n'a pas pris un centime. Bien. Monsieur Ciot dit « Je discute ». C'est un problème de droit. Est-ce qu'effectivement, il a démissionné ou c'était une fausse démission, c'était une vraie démission? Et est-ce que l'indemnité qui m'a été allouée est une indemnité due ou pas due? C'est un problème qui se pose.
Même évoqué, j'ai oublié, le député Gibrayel également, qui a des petits soucis.
Non, monsieur Gibrayel n'est pas poursuivi.
Non, il y a des petits soucis, ça risque d'arriver prochainement. Donc, quand il y a ce genre de doute, on réhabilite et on reprend les mêmes.
Non, non, il y a une règle de droit qui est la présomption d'innocence qui doit être respectée, et je considère qu'elle doit être respectée pour tout le monde. Lorsqu'il y a une accumulation, je considère que les gens doivent... Mais c'est de leur responsabilité. Encore une fois, vous allez dire que je suis un éternel enquiquineur au niveau du droit et du juridique. Mais encore une fois, quelqu'un qui est poursuivi, il a la présomption d'innocence, il peut s'arrêter. Il peut s'arrêter s'il le veut. Ça, c'est un problème de personne, c'est un problème individuel. Je prends la responsabilité de m'éloigner ou je ne prends pas la responsabilité de m'éloigner.
Michel Peset, je vous remercie. On se retrouve le mois prochain avec un tout autre candidat, un tout autre homme politique. Merci. Yeah.